Daniel, chapitre 2 et 3 vont ensemble. Alors ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas lire tous les deux aujourd'hui. Nous allons commencer juste et puis nous allons terminer plutôt mercredi. Il y a tellement à dire. Alors je fais le pont avec ce que nous avons dit la semaine dernière parce que justement il y a un lien qui réunit ces deux pensées. La semaine dernière, nous avons terminé en disant de faire confiance en Dieu pour ce qui est impossible. Parce que franchement, si vous vous confiez à Dieu juste pour traverser la rue ou enfin, faire quelques courses, bon, c'est pas grand-chose. Enfin, faites vos courses, bien sûr. Mais confiez-vous en Dieu pour des grandes choses qu'il est capable de faire bien au plus au-delà de ce que nous puissions imaginer. Et c'est chapitre 2 qui nous en donne peut-être un des plus puissants exemples justement de ça. Daniel, cet homme qui s'est confié en Dieu. Et nous allons voir à quoi ça... Qu'est-ce que ça fait? Bah, d'abord, il confronte, il est en confrontation avec l'impossible. Nous allons voir. C'est presque un super-héros. Hein. Enfin, Daniel, c'est cet homme de Dieu qui va faire des choses. C'est pour ça que justement, il y a tellement de critiques qui veulent arracher ça de notre Bible. Mais en fait, il est en pleine confrontation avec l'impossible. Et deuxièmement, ce qui est assez étonnant, c'est comment il réagit. Donc, deuxième chose que nous allons voir, c'est la réaction de quelqu'un qui connaît Dieu. Ce n'est pas comme tous les autres. Il y a une autre manière de réagir. Et c'est ça, justement, qui nous fait savoir, ah oui, cet homme-là, il connaît Dieu. Et ce qui suit tout naturellement, c'est que Dieu, il ajoute ou il fait quelque chose par rapport à sa foi. Donc, il y a cette confrontation, donc il y a une réaction, et puis il y a Dieu qui entre dans l'histoire, et ce qui fait de la foi de cet homme. Daniel, il cite quand même ses sources, il rend gloire à Dieu, et ce qui suit, c'est que le Seigneur fait le travail qu'aucun homme ne peut jamais faire. Alors voilà à peu près où on peut se situer dans cette histoire. Alors commençons avec verset 1, s'il vous plaît. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc, seconde année. Rappelez-vous donc que cette première passage s'est passé au début. Donc, de cette victoire de Nebuchadnezzar et quand finalement il arrive à monter sur le trône et tout ce qui va avec. Donc nous réalisons que c'est très proche en fait de chapitre 1. On est vraiment de quelques années de près. Alors il a ce songe, mais ce n'est pas comme les autres. Et le roi fit appeler les magiciens et les astrologues, les enchanteurs des Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Donc tout simplement, il sait que c'est un songe qui n'est pas comme les autres. Je ne sais pas si vous avez fait un songe qui était un peu spirituel, un peu différent, qui vous marque et qui vous hante quelque part. C'est exactement ça. Mais vu qu'il est roi, il a à sa disposition donc tous ces magiciens et tout, ça serait, si vous voulez, pour mettre un petit peu dans un contexte moderne, c'est quelqu'un donc qui fait appel à son psychologue, hein. Donc il a tous ces magiciens qui vont l'analyser, psychanalyser, et puis de leur façon babylonienne à cette époque, et pour extraire le sens, le roi leur dit, j'ai eu un songe et mon esprit donc agité. Alors ils écoutent bien, verset 4 donc, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméen, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et non. Et nous en donnerons l'explication. normal. Même chose qui se passe chez le psy. Hein. On dit ce qu'on a à cœur et puis il explique exactement ce qu'on a ici. Mais le roi, il veut quelque chose de plus. Il veut pas ça. Le roi, il reprit la parole, il dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois la vérité, que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Et si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire que demande roi, aussi jamais roi. Quelque grand et puissant qu'il ait été, n'exige une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté des dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. C'est là où nous voyons vraiment la puissance de cet homme. Alors, encore imaginez-vous, dans ce contexte moderne, hein, c'est comme vous virez donc le docteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, Nebuchadnezzar réaliser qu'il n'a pas besoin d'une analyse humaine. Il n'a pas besoin que les gens, donc, normal, interviennent dans sa situation et que c'est lui, donc, qui dise la chose et c'est eux, donc, qui viennent de leur point de vue humaine pour voir et analyser et prononcer quelque chose sur son rêve. Mais ce qu'il veut, c'est quelque chose de plus. Il sait que ça vient d'ailleurs, son esprit est agité. Il veut savoir que si ces hommes sont des véritables hommes de Dieu, qu'il y ait des preuves. Alors, est-ce que il ment en disant « j'ai oublié » C'est possible, hein? Nous ne parlons pas d'un homme qui est dans le royaume, hein? C'est un roi païen. Donc, tous les moyens sont bons pour y arriver. C'est tout à fait possible qu'il mente. Ou bien, peut-être qu'il a effectivement oublié. Mais il y a quand même les sentiments, les émotions qui sont là. Alors, il veut savoir. Et Daniel, qui est parmi ces hommes sages, on ne pense pas qu'il était parmi ceux qui ont dit « Roi, attends, personne n'a jamais demandé ça. » Et c'est vrai. Parce que personne ne peut jamais demander une chose pareille. Mais, en réalité, ce qui est en train de se passer avec cette circonstance impossible, c'est que Dieu est en train d'élever un homme fidèle et d'abaisser un roi orgueilleux. Et seulement Dieu peut faire pareil. C'est très important. C'est pour ça, justement, qu'il a mis Daniel dans une situation où il ne peut rien faire. Et si Dieu permet une situation impossible où vous ne pouvez rien faire, attention, parce que ce n'est pas une erreur de sa part. Ce n'est pas non plus forcément que vous avez fait un faux pas. Par contre, c'est bien possible que vous soyez au plein milieu de la volonté de Dieu pour vous et il est en train de faire quelque chose qui est impossible à vous pour que lui, il se montre puissant et qu'il fasse ce que vous ne pouviez jamais faire. Comment s'en sortir? Déclencher donc cette puissance, si vous voulez, pas dans un sens vulgaire, mais justement être plutôt branché ou enfin branché à sa puissance, il faut réagir dans la foi. Et pour ça, il faut être un homme, une femme de foi. La foi qui est cette ferme assurance, ces choses qu'on espère. Et même cette démonstration de celle qu'on ne voit pas, la foi. Alors, vous voyez justement la réaction de la foi. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, rappelez-vous, à cette époque, Daniel, il n'est rien, hein. Donc, peut-être on commence à tuer les plus grands, et puis on descend dans l'échelle, et puis, ah oui, il y a Daniel, donc il faut qu'on les cherche. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort des sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Bon, il est possible qu'il n'est pas au courant de la situation, puisqu'il n'est pas encore haut placé. Si vous voulez, c'est comme vous travaillez peut-être en tant que cadre dans une société, alors que le PDG vient d'être, bon, je ne sais pas, remplacer, et puis du coup, le nouveau, il veut remplacer toute l'équipe, tous les managers, tous les cadres, et ben vous aussi. Et donc, vous n'êtes pour rien. Et je pense que c'est un petit peu ça, cette situation pour Daniel. Il n'est pour rien. Et il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi changer de personnel, puisque ça fonctionne bien? Pourquoi la sentence était si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel... Alors, écoutez bien, c'est ça où ça se voit bien. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishraël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. C'est assez osé ce qu'il fait, hein. Donc, pour reprendre notre image des cadres et de société qui est en train de tout changer, c'est comme le petit cadre, il rentre voir le nouveau PDG sans passer par les managers ou par personne, tape sur la porte et dit, excusez-moi, de façon prudente et sensée. Et puis, il dit, accordez-nous un peu de temps. Vous voyez, c'est assez osé ce qu'il fait, assez courageux. Mais, comme c'est un homme de Dieu, il est respectueux. Il respecte l'autorité que Dieu a placée. Et, surtout, sachant que cet homme est à deux pas de le tuer, de toute façon, c'est son job. Daniel, de façon encore respectueuse. C'est tellement important, surtout si on est justement dans un travail ou dans une situation où nous avons des gens au-dessous de nous. Toujours, quoi que soit la situation, surtout si la situation nous semble bizarre, nous semble injuste, nous sommes irrités, la personne ne se comporte pas bien. Si vous êtes l'enfant de Dieu, il faut répondre respectueusement. de façon sensée, sage. Pour ça, il faut la foi, il faut croire, il faut prier. Et voilà ce que Daniel a fait. C'est génial. Il a des vrais amis. Et comment on sait si quelqu'un est un vrai ami? Il prie. Les vrais amis prient ensemble. Et c'est exactement ce qu'ils font. Il dit, mais écoute, hein, on n'a que cette seule chance. Quelque part, Daniel, il n'est pas intimidé par cette situation. Et il sait, sans aucun doute, où nous pouvons trouver la solution pour cette question impossible. C'est Dieu qui le tient dans son pouvoir et pas ailleurs. Justement, dans votre vie, quand vous êtes face à des situations pareilles, peut-être pas pareilles, mais impossibles, quelle est votre première réaction? Parce que c'est là votre espérance, souvent. Est-ce que c'est le repos, se retirer, votre espérance est probablement dans le repos et l'éloignement? Ou si votre réponse est de médire, peut-être votre espérance est plutôt dans la vengeance. Si votre réaction est de prier, ça dit beaucoup sur votre impression sur Dieu, votre espérance sur Dieu. Et c'est par la prière que ces choses puissent changer en nous aussi, si on n'est pas encore là. Alors, les amis, il vient, il prie ensemble. Et c'est là où les choses commencent à changer. Parce que Dieu, il n'est pas un différent face à la foi. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit lorsqu'il a vu le figuier qui n'avait pas de fruits. Il a dit, vous, si vous avez juste la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez même dire à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors, effectivement, verset 19. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » C'est fantastique. C'est fort, cet homme. Il reçoit la vision et il sait et il commence à louer le Seigneur. C'est pas, il a une idée. Et puis il dit, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Non, il a reçu de façon à ce qu'il savait. Il le savait tellement qu'il commence à louer le Seigneur. Donc c'était vraiment concret, c'était réel. Et Dieu est magnifié dans sa prière. Et justement, dans cette prière, nous avons beaucoup de versets tirés des psaumes et partout dans l'Écriture. Qu'est-ce que ça nous dit de Daniel, un homme de foi? Ça nous dit que c'est un homme qui lit la Bible. Par ailleurs, il est à noter que c'était à cette époque où, dans la déportation, que les gens commençaient à canoniser les Écritures. Donc, on commence maintenant à vraiment faire le tri. Et pendant ce temps, Daniel, il est là-dedans, évidemment. Il connaît l'Écriture. Il avale et ça ressort. dans ses prières. Si vous ne connaissez pas comment prier dans une situation, l'Écriture est toujours un meilleur guide parce qu'elle nous fait voir quelle est la volonté de Dieu, quel est le cœur de Dieu. Pas seulement ceci, c'est que Daniel, il avait une vision grande de Dieu. Regardez les versets qu'il cite. Ce n'est pas « Où es-tu, Dieu ?» mais c'est « Tu es le Dieu d'éternité, d'éternité. » Sa vision est grande, Dieu. Et c'est exactement ce que nous devons avoir aussi, de le louer. Demandez-le qu'il vous élargisse justement votre esprit pour que vous ayez une meilleure compréhension de Dieu. Il est beaucoup plus large que nous puissions comprendre. Donc c'est toujours une bonne prière qu'il nous fait comprendre qui il est. De toute façon, le secret fut révélé. Parce que Dieu fait des grandes choses par la foi. Et avec un homme de foi, il les récompense. Voilà ce qu'il fait avec la foi. Si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas la peine d'attendre une récompense de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne me fait rien pour moi? Ah, mais si vous croyez, alors il pourrait avoir quelque chose au moins. Mais puisque vous vous obstinez, ce n'est pas la peine, on pourrait dire. Ou il ne faut pas au moins attendre quelque chose de Dieu. Ensuite, Daniel, maintenant, il faut qu'il mette sa foi en pratique. Parce que c'est une chose de recevoir la vision, c'est tout un autre maintenant de se présenter et de le dire. Et Daniel, il ne manque pas. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Donc je pense que quelque part, il y a un soupir, il y a un relâchement, mais le ton monte aussi parce qu'on ne peut pas mentir. Hein. Soit il connaît la vision, ou soit il va être mis à mort. Arjok conduit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages et les astrologues et les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » De même aussi, j'ajoute, parce que nous avons commencé à parler de la psychanalyse, il y a des choses qu'aucun docteur sur Terre ne peut jamais savoir, puisqu'il y a un Dieu dans les cieux qui connaît toutes choses. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté tes pensées touchantes, ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure. Alors écoutez bien. À celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Voilà ce qui est le plus nécessaire. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent ceci et qui viennent en aide de ceux qui ont besoin, justement, qui n'ont pas honte et n'ont pas peur de rendre gloire à Dieu. Parce que si on connaît quelque chose, mes chers amis, c'est grâce à lui, ça ne peut pas être grâce à nous. Parce que qui peut connaître les cœurs? Qui peut sonder les cœurs et les reins? Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Nous ne sommes pour rien. Mais il nous utilise. Il veut nous utiliser. Il n'y a rien de mal en aidant les uns les autres. avec des conseils ou autres. Il n'y a pas de mal avec des conseillers non plus.
Non.
Mais il faut que Dieu ait toujours la gloire s'il vous donne quelque chose d'impossible, bien sûr. Alors, ce qui arrive ensuite est le miracle. Alors, Daniel, il raconte donc au roi ce vision, ce rêve, et c'est puissant. Alors, nous allons le garder pour mercredi. Donc, il faut que vous veniez mercredi si vous voulez étudier encore plus. Mais je vous donne quelques indices. D'abord, il parle de l'époque babylonienne et il commence à évoquer des nations qui ne sont rien pour l'instant, telles que les Perses, les Grecs, qui à cette époque étaient juste dans cette démocratie, entre guillemets. Ils n'étaient pas encore soudés pour former l'Empire. Il évoque les Romains qui étaient plus ou moins une ville des brigands qui tapaient au-dessus des autres, qui étaient en train d'amasser leur pouvoir aussi, mais bon, qui étaient pour rien. Hein. Et sa vision va jusqu'à la fin des temps. Mais Daniel donne cette explication. Et cette explication est tellement forte. Il parle même de la fin des temps. Et regardez verset 44. « Et dans ces temps des rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Là, nous parlons du roi des rois. Nous parlons de Jésus, le dernier roi. Celui qui est proclamé roi parce qu'il a fait tout ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que lui, qu'il était dans sa majesté, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une chose à arracher, comme quelque chose qu'il garde juste pour lui-même. Non. Non. Il a obéi à son Père. Il s'est incarné. Il a pris donc la chair humaine. Et il était juste comme nous, sauf sans péché. En fait, il a marché dans cette vie, n'a jamais eu des pensées qui insultent les autres, par exemple, dans son irritation. Il n'a jamais eu, donc, commis des péchés, il a toujours fait la volonté de Dieu pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, parfait, complètement parfait. Et puisqu'il était parfait, alors que personne dans cette terre est parfait, il est allé au fin de sa mission. Sa mission était quoi? De devenir le sacrifice qui enlève justement le péché. Voyez, quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin, le péché est entré dans ce monde. Mais la royauté, si vous voulez, le règne de la terre vient donc à Satan. Le monde est régi par sa puissance. Et c'est pour ça justement que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est toujours sous l'influence de Satan et s'il s'obstine et s'il refuse Christ, il reste dans le royaume des ténèbres et il meurt dans les ténèbres, l'enfer. Or, s'il vient donc à Christ, Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout autre nom qui peut être nommé. Pourquoi? Parce que en confessant le nom de Jésus, en croyant en ce qu'il a fait, Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous passons donc du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Et ça, c'est le salut de nos âmes. Et verset 46, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Attention, c'est l'homme le plus puissant de son monde. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, notre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et relève les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel prit la parole de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était à la cour du roi. Voyez, Dieu fait grâce aux humbles, il abaisse les orgueilleux. Et dernière chose, et je termine, Daniel a proclamé Christ. Justement, qu'est-ce que c'est la prophétie? La prophétie, c'est le témoignage de Christ. Alors, en 1 Corinthiens 14, verset 24, nous avons une chose assez intéressante. C'est Paul donc qui parle de la prophétie en tant que don de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais si tout prophétisait et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, qu'il est convaincu par tous, il est jugé par tous, le secret de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Exactement ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'il était face à face avec un prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète est quelqu'un qui proclame le nom de Christ. Et voilà ce qu'il a fait. Alors, nous terminons là aujourd'hui, mais venez mercredi et nous allons voir le reste. Triomphe.